Eh bien, bon dimanche à tous.
Merci.
C'est un beau mois de septembre bien ensoleillé. Et on a même la fenêtre ouverte. On est bien ici.
Ouais. Alléluia.
Alléluia.
Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Amen. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'était Raphaël le Gitan qui disait toujours ça. Dans toutes ses réunions, il disait ça. Il commençait comme ça. Alléluia. Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Et il n'avait pas peur de mettre le diable en colère, lui. Enfin, vous savez que celui qui vit en lui, Jésus-Christ, est plus fort. Amen. Alors, on n'a pas peur du diable quand on sait que celui qui est en nous, ben, on ne va pas non plus exprès le provoquer. Mais bon. Voilà, on va commencer notre culte en continuant cette série au sujet de la loi dans l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quand même une grande confusion. Les gens m'écrivent souvent, mais frère, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on est sous la grâce? Ça veut dire qu'on est gracié gratuitement par Jésus-Christ, et étant gracié, alors nous pouvons, par le Saint-Esprit qui est en nous, observer la loi, c'est-à-dire faire le bien autour de nous. Alors on va voir ça un peu plus en profondeur ce matin. Je ne sais pas si je vais faire encore une autre prédication, peut-être, il est possible. Donc je vous disais que Jésus est venu pour amplifier la loi de Moïse dans le sermon sur la montagne. On va lire ça dans Matthieu chapitre 5 et versets 27-28. Voilà ce que Jésus dit. Non, 7, Matthieu 5, versets 20 et 23, pardon. 20 à 23. Car je vous dis que si votre justice... C'est Jésus qui parle, hein. Ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire le top du top des religieux de l'époque, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et il continue en disant, vous avez entendu dire, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « raca », c'est-à-dire « fou », mérite d'être puni par le Sanhedrin, c'est-à-dire le système légaliste, les tribunaux religieux. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Alors, vous voyez, c'est pas rien du tout, c'est terrible. Alors, ils ont l'air de quoi, ceux qui nous disent « on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce ». Jésus est venu amplifier la loi, la rendre encore plus sévère. Moïse dit qu'il est interdit de tuer quelqu'un. Et Jésus dit « il ne faut même pas le mépriser. Il ne faut pas mépriser quelqu'un, il ne faut pas le haïr, parce que cela revient à le tuer. » Il dit aussi au verset 44 « que nous devons même aimer nos ennemis, les bénir, bénir ceux qui nous maudissent, et faire du bien à ceux qui nous haïssent, et de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. » Hein, il va loin. Est-ce que ce ne sont pas des lois? Est-ce que ce ne sont pas des lois? Sont-ce juste des recommandations? Non. Est-ce que ce sont juste des paroles dépourvues de sens réel? Non. Il dit tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Je vous le dis, ce sont des lois, mes frères et sœurs. Les lois de l'Église, les lois de la grâce, les lois du royaume de la grâce. Pour l'adultère, on va lire Matthieu chapitre 5, toujours, verset 27, là, cette fois. Vous avez appris qu'il était dit tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? C'est pas rien du tout. Puis Jésus ordonne, il commande. Quand on fait un don, on doit le faire en secret et non pas pour être vu. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Et il nous commande de prier régulièrement en privé, et non pas pour se montrer, pour montrer nos talents oratoires à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier ensemble, mais on ne doit pas prier, on doit prier en privé. C'est une loi. C'est un commandement, c'est un ordre de Jésus. On ne doit pas non plus répéter sans cesse des formules vaines. Carrément, il le dit. Chapitre 16, verset 18, toujours dans Matthieu 25. Moi, je me rappelle, avec un ami, on avait fait un séminaire jésuite, les exercices de Saint-Ignace de Loyola. Et tous les après-midi, on faisait, enfin, pas moi, mais eux, là, tous les gens du séminaire, ils faisaient un chemin, soit dans la nature, là, et ils récitaient « Je vous salue Marie, pleine de grâce, voilà. » Et ça durait, c'est très long. Et Jésus dit, interdit toutes ces formules vaines, toutes ces répétitions, tous ces machins-là. Verset 10, 16 à 18, c'est un ordre, c'est un commandement. Quelqu'un qui désobéit à ça, même si c'est religieux, c'est pas bien, Jésus veut pas. Qu'est-ce que c'est ça, sinon des lois? C'est une loi. Quand on a un Seigneur, on obéit à son Seigneur. Et puis Jésus enseigne de jeûner. Pour s'humilier, pour se rapprocher de Dieu, lui-même il l'a fait, dans Matthieu 4, on trouve ça, comme Moïse, dans Deutéronome 9 et 18, comme Paul l'a fait dans Actes 9, 8, jeûnez. C'est un commandement, il dit jeûnez, faites-le. Et si je lis bien dans ma Bible, qu'est-ce que je trouve? Je vais vous lire quelque chose qui est stupéfiant, on dirait que les chrétiens ne connaissent pas, n'est-ce pas? Hébreux 9, 9 à 12. Je lis. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, c'est-à-dire celui qui offre des animaux, celui qui fait des ablutions, celui qui. Toutes les choses que la loi disait de faire. Ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les ordonnances charnelles. Et les ordonnances de Moïse, charnelles. Imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Il y a eu une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, les sacrifices et toutes ces choses-là, non, c'est terminé. C'est terminé, mes frères et sœurs. Ce texte nous dit que les sacrifices, les ablutions sont devenues obsolètes. Obsolètes! Pas rien, obsolètes. Ça veut dire obsolètes. Ça veut dire c'est fini, c'est terminé, c'est ridicule. Et que la loi morale n'a jamais été annulée. Par contre, ça, on le trouve dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, et verset 12. 14-12. Ceci, c'est ici la persévérance des saints. Qu'est-ce que c'est la persévérance des saints? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est ça, la persévérance des saints. La persévérance des saints, c'est pas de dire « je crois en Jésus, alléluia, je parle de Jésus partout, alléluia ». Non, c'est de persévérer aussi dans les commandements, obéir. Voilà, persévérer, être un saint persévérant, c'est garder les commandements et la foi en Jésus. La foi en Jésus qui sauve, qui guérit, qui pardonne, qui purifie, mais qui ordonne aussi, qui commande. Voilà. Mes frères et sœurs, s'il était possible de voyager dans le temps et de se transporter au premier siècle de l'Église primitive, qu'est-ce qu'on constaterait? Eh bien, on verrait un groupe de fidèles croyant que Jésus est le Messie absolument, celui qui est promis dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Temps, et qui vivait en communauté. Qui vivait en communauté. En effet, ces gens-là ne se contentaient pas de parler de la personne de Jésus, mais il faisait ce que Jésus avait commandé. Jésus avait commandé en disant dans Luc 14:33, « Nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce à tous ses biens. » Et les premiers chrétiens ont fait ça, ils ont renoncé à tous leurs biens, ils ont partagé. J'ai lu quelque chose, je vais vous le lire, je l'ai mis sur mon téléphone. J'ai lu quelque chose dans un bouquin, écrit par un mormon français, et voilà ce qu'il dit. Jésus a dit, soyez un. Si vous n'êtes pas un, vous ne pouvez pas être mes disciples. Tel est le commandement donné au saint des derniers jours, dès l'année 1834, avant même que l'Église eût un an d'existence, donc leur Église, l'Église des Mormons. Sous quel rapport les saints sont-ils tenus d'être un? Nous répondons, ils sont tenus d'être un en choses temporelles comme en choses spirituelles, un en bien terrestre et en bien céleste. Ce commandement d'être un embrasse et complète tous les autres commandements. C'est là la fin dernière et tout le but du grand plan de salut que contient l'Évangile. Dès maintenant, nous sommes un en doctrine. Il nous reste à devenir un dans les choses temporelles, sans quoi nous ne pourrions jamais devenir complètement égaux en choses spirituelles. Vous vous rendez compte? Établir dans leur organisation sociale une unité complète et l'égalité fraternelle, voilà l'idéal des saints modernes, des chrétiens modernes. Voilà l'idéal. Cet idéal est la réalisation du dogme de la charité chrétienne tel que les premiers enfants de l'Église du Christ le comprirent et le mirent en pratique sur l'ancien continent, c'est-à-dire, non pas en Amérique, mais ici, sur le continent. C'est en effet sur ces principes que fut édifiée à Jérusalem l'Église primitive. Après avoir mis tous leurs biens en commun, les saints de ce temps-là vivaient tous un et égaux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Voilà ce que les mormons disent. Ils ne le font pas encore. Mais ils savent que c'est l'idéal. Et nous, grâce à Dieu, on le fait. Et on le fait depuis quelle année? Depuis 1977-78. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu. Mais nous sommes une petite lumière pour inspirer d'autres. Et il y a d'autres qui sont inspirés maintenant avec ça. Donc, si vous alliez dans l'Église primitive, vous verriez que ces premiers chrétiens, ils vivaient ça. Ça, c'est l'idéal. C'est comme ça que l'Église doit être. En effet, ces gens ne vivaient pas autrement. Ils faisaient ce que Jésus avait commandé. Ils vivaient... Jésus vivait en eux vraiment par le Saint-Esprit pour leur permettre d'observer les 10 commandements en tant que mode de vie, mais pas seulement les 10 commandements, mais aussi les commandements de Jésus. Il n'y avait pas de crime dans l'Église, ni de vol, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de viol, il n'y avait pas de pédophilie, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de tout ça. Alors maintenant, vous pouvez vous moquer de nous parce que nous vivons en communauté et nous traiter de secte parce que nous vivons en communauté. Ha ha ha. L'autre jour encore, je parlais avec un homme d'affaires ici. Il me dit, oui, je vous connais, je vois que vous êtes des gens formidables, mais aux yeux des gens, ça fait quand même un peu secte le fait de vivre ensemble. Ah oui, ça fait un peu secte. Ben, je préfère faire un peu secte que d'avoir la réputation d'avoir des bonhommes en jupette qui pratiquent la pédophilie. Pardon. Alors on se moque de nous parce que nous vivons en communauté, on se moque de nous parce que nous croyons au livre, à la Bible et au livre de Mormon. Si vous avez le livre de Mormon, lisez la section 42 et 43 de Doctrine et Alliance. Je vais vous en lire un passage. Je vais vous en lire un passage. Section 42-43, les versets 84-92. De 42, section 42, 84, 92. Écoutez ça. C'est une prophétie qui est donnée par Jésus et qui dit « Si un homme ou une femme dérobe, donc dans l'Église, hein, ils seront livrés à la loi du pays. » Il n'est pas question d'avoir un conseil dans la secte pour décider ce qu'il faut faire. et caché ça au gouvernement. Et s'ils volent, ils seront livrés à la loi du pays. Et s'ils mentent, ils seront livrés à la loi du pays. Et s'ils se livrent à une forme quelconque d'iniquité, ils seront livrés à la loi, c'est-à-dire à celle de Dieu, qui veut qu'on livre les gens au pays, aux tribunaux. Et si ton frère ou ta sœur t'offense, tu les prendras seul à seul, et s'ils confessent, vous vous réconcilierez. S'ils ne confessent pas, tu les livreras à l'Église, pas aux membres de l'Église, mais aux anciens. Cela se fera dans une réunion et non pas devant tout le monde. Et si ton frère ou ta sœur en offense beaucoup, ils seront châtiés devant beaucoup. Et si quelqu'un offense ouvertement, il sera réprimandé ouvertement afin qu'il ait honte. Et s'il ne confesse pas, il sera livré à la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu qui exige qu'on soit livré au tribunal du pays. Et si quelqu'un offense en secret, il sera réprimandé en secret, afin qu'il ait l'occasion de confesser en secret à celui ou à celle qu'il a offensé, et à Dieu, afin que l'Église ne lui fasse pas de reproche. C'est ainsi que vous procéderez en tout. C'est pas une bonne loi ? C'est une bonne loi. Si elle a été pratiquée dans l'Église catholique, eh ben, il y a plein de ces gros cochons de pédophiles qui seraient en prison depuis des dizaines d'années, par exemple, sans parler de tous les scandales de la Banque du Vatican, sans parler... D'ailleurs, même, je parle des catholiques, mais des protestants, vous avez des scandales terribles aussi. C'est une loi, c'est la loi dans la grâce. C'est mieux que ce qu'on voit dans les diverses dénominations. Je suis en train de lire un bouquin qui explique que la peine et le chagrin et la difficulté qu'ont les bonnes de curé. Vous savez, la chanson, elle n'est pas rigolote, la vie des bonnes de curé. Il y en a beaucoup, ben, c'est la femme du curé, quoi. Alors qu'ils ont fait vœu de... Alors elles sont déchirées, puis ils ont des enfants. Quand l'Église ne leur dit pas d'avorter ses enfants, eh bien, les tuer, eh bien, on cache, on couvre. Enfin. Et puis tous ces pasteurs qui divorcent, moi je me rappelle dans les années 60, mais on n'entendait jamais parler de pasteurs qui divorcent. Mais jamais, jamais. Des pasteurs en prison pour escroquerie. Moi, j'ai été voir à Paris un grand pasteur avec les yeux un peu bridés comme ça. Ceux qui connaissent, ils savent qui c'est. Avec la plus grande église évangélique du monde. Ben, il est en tôle maintenant pour escroquerie. Quel témoignage ! Ah, vous vous moquez de nous parce qu'on vient en communauté et vous nous traitez de secte parce que on n'est pas comme vous. Ben, je préfère être traité de secte et pas être comme vous. En fait, vous nous amusez, vous qui nous traitez de secte. Vous croyez en Jésus, c'est bien. Mais la Bible nous dit que les démons croient aussi en Jésus et ils tremblent. Pourquoi est-ce qu'ils tremblent ? Ben parce que leur croyance ne les sauve pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'obéissent pas à la loi de Jésus. Ils n'obéissent pas à la loi de Jésus. On va lire ça dans un chapitre 2. Verset 19-20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Un chrétien, il croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne croit pas qu'il y en a trois. Hein. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? C'est-à-dire, tu crois, mais tu n'agis pas, tu ne fais pas ce que la Bible dit. Eh bien, c'est inutile. C'est la même chose que la foi des démons. Maintenant, dans la version parole vivante de mon très cher frère Alfred Kuhn, qui est un Suisse, pointilleux et qui va chercher vraiment les subtilités qu'on peut trouver dans les écrits les plus anciens, alors lui, il écrit, écoutez ça, c'est terrible, dans Luc 6, verset... les mêmes versets, là, le verset 18. Tu as la foi, moi, mais moi je te présente mes actes. Montre-moi donc ta foi sans les actes, et je te prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Parfait. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. veux-tu savoir, veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien, espèce de tête creuse. Vous savez, dan, 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 dan. C'est la version la plus... Il est très proche de la réalité en disant tête creuse, à la place de homme vain. Ça, c'est second, il est très pudique, très poli, très correct. Mais, hein, voilà. Mes frères et sœurs, ne nous contentons pas d'invoquer le nom du Seigneur Jésus en ne faisant pas ce qu'il a commandé. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Luc 6, 46. Il y a des commandements dans la grâce. Il y a des lois dans la grâce. Dans l'Église primitive, les chrétiens du 1er siècle n'auraient jamais cherché à se battre entre eux ou à se massacrer comme le firent les Français, les Allemands, les Italiens et tous ces gens qui sont chrétiens, n'est-ce pas, pendant le siècle passé. Jamais ils auraient fait une chose pareille. Au 1er siècle de l'Église, aucun chrétien n'adressait de prière à Marie. Quand Marie rentrait dans l'église, il disait « Salut !» C'est tout. « Alors comment ça va ma soeur ? Ça va Marie ? Oh, t'as l'air un peu fatiguée aujourd'hui. Mais j'ai prié pour toi. » Voilà ce qu'il disait plutôt. Priez pas Marie. Au premier siècle du christianisme, les ministres de l'évangile étaient mariés et pères de famille. Allez, je vous le lis. Dans 1 Timothée 3, 1, 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, mais pas de sa bonne, hein, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Vous voyez ? Il ne faut pas que ça soit un nouveau converti de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil et ne tombe sous le jugement du diable. Donc tous ces jeunes convertis qui viennent, et puis qui... Il y en a un autre jour qui m'écrit, mais pasteur, il faut être patient. Je dis, mais je t'interdis de m'enseigner sur la patience. Il arrive, je ne sais pas, 20 berges, et il vient me... Non, mais c'est quoi ça? C'est pas que je méprise les jeunes, mais il ne faut pas non plus mépriser les vieux. Je tombe dans l'orgueil après. Tite 1, 5... Alors, Tite 1, 5, 9. Écoutez ça. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé d'ébauche ni rebelle, parce qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. Comme économe de Dieu, il faut qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Ben, dites, oh, aïe, 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 tous ceux qui font des milliers de... Alors, les collectes, vous allez dans les églises, il y a 4-5 collectes dans la réunion, c'est terrible. Le Saint-Esprit me montre, il y a ici une personne qui va donner 500 euros. Oh, le Seigneur me montre, il y a quelqu'un, il y a 10 personnes qui vont donner 100 euros ici. Venez, approchez-vous, mettez dans la corbeille. Et puis, il prêche encore un moment, vous dites, oh, le Seigneur est en train de me révéler qu'il y a quelqu'un qui va donner 1000 euros. Et puis, mais j'ai vu ça. Et c'est pas qu'une fois. Hein. Il faut qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée au début, au commencement, pas avec les traditions frelatées qui sont venues après, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà. Paul savait, et il prophétisait, que à la fin des temps, il y aurait des doctrines démoniaques qui allaient s'introduire dans les églises. Il dit ça dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneraient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire qu'ils auront une spiritualité de ténèbres, une lumière de ténèbres, comme je vous enseignais vendredi passé. Par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle-t-il quelque chose? Quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Oh, mais c'est tout simple, vous avez une dent contre l'Église catholique. » Parfaitement, absolument, j'aime les catholiques, mais j'aime pas du tout leur organisation, parce qu'elle n'est pas scripturaire, elle n'est pas scripturaire, c'est une fausse Église. C'est une fausse Église. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ah, faut pas manger ci, ah, faut pas manger ça, ça c'est impur, ça il faut manger seulement le vendredi, ça faut, non, gnagni, il faut être végan, faut pas manger des animaux. Ah, les pauvres animaux, vous avez déjà entendu le cri des poires, oh, que dans les arraches, c'est épouvantable. Vous avez de tout et de n'importe quoi, et tout ça, ça se dit chrétien. Car tout ce qui a été créé, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Non, mais... Ah, j'aime ça! J'aime ça parce que c'est une bonne nouvelle qui délivre les vrais chrétiens qui sont dans les églises et qui sont coincés. Comment elle va la chanson là? 10 ans d'amour sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Pierre, comment ça va? Ah oui, et bonne chance à celui qui veut ma place. Moi, je ne veux pas une place là-dedans. Je veux une place avec Jésus. Je veux une place avec Jésus. Paul savait et prophétisait que de telles doctrines s'établiraient dans l'Église. C'est établi maintenant, ça y est, il n'y a plus besoin de prophétiser, on les voit. On les voit. Ces sectes modernes ont inventé des lois anti-bibliques et refusent d'obéir aux bonnes lois de Jésus-Christ en disant qu'on est sous la grâce. C'est infernal. Bref, les chrétiens du 1er siècle, ils essayaient sincèrement, avec l'aide de Dieu, de vivre toute la parole qui sortait de la bouche de Dieu, au travers des apôtres, des prophètes. Ils s'efforçaient d'imiter l'exemple de Jésus, qui lui-même avait obéi aux lois divines, et jamais aux voies ou aux rituels et aux fêtes religieuses tirées du paganisme environnant. Ça vous dit quelque chose? Jésus disait, et puis il dit encore, hein, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Si quelqu'un m'aime, vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que Jésus habite avec toi? Il n'habite avec toi qu'à cette condition, c'est que tu gardes sa parole. C'est tout. Si tu y rajoutes ou si tu enlèves, il ne vient pas, il ne reste pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas le mélange. Mes frères et sœurs, le véritable amour de Dieu découle des 10 commandements et des commandements de Jésus dans son Église. Et comme l'apôtre Jean l'explique très très bien dans 1 Jean 5, 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je répète, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Les gens disent, ah, oh, mais comment on fait pour vivre en communauté? Ça doit être pénible, ça doit être difficile. Alors répondez-moi les frères, c'est difficile de vivre en communauté?
Non.
Ah, c'est difficile de vivre en communauté?
Non.
C'est pénible, on a des commandements épouvantables?
Oh, ça va être épouvantable de vivre en communauté.
Non.
C'est le contraire.
C'est le contraire qui est pénible. Quand je lis des lettres que je reçois, des mails que je reçois, je suis tout seul, ils m'ont laissé tomber. Ben oui. Ça, c'est difficile de vivre dans des églises comme ça. Je vais terminer là pour aujourd'hui. J'y reviendrai certainement dimanche prochain, Dieu voulant, parce que je veux que ça soit très très clair. Il y a des lois dans l'Église de Jésus-Christ. Il faut arrêter de dire « nous vivons sous la grâce ». Nous vivons sous la grâce, mais nous prouvons que nous vivons sous la grâce quand nous obéissons au commandement de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous bénir, mes frères et sœurs, et de les aider à bien comprendre ça dans leur tête et dans leur cœur pour qu'ils vivent cela et se séparent de tout ce qui n'est pas correct au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. À bientôt.